Depuis le début, dès le départ, je leur ai dit que je ne voulais pas. Et voici voilà, tonton, tata qui s'acharne sur moi. On me dit que l'honneur de la famille est en jeu. L'enjeu me fait dire oui pour que tout le monde soit aux anges. Je résiste, me rebelle, je reste dans ma chambre pendant que se relaie. Je rêve de foutre le camp. En ce moment, je suis dans le village de mes parents. Et ma parole, je me sens devenir folle. J'ai peur, j'ai chaud. Je me sens bizarre dans ma peau. J'ai la chair de poule. Je suis à fleur de peau. Je viens d'accepter d'épouser mon cousin, le vrai, le fils du frère de mon père. Pour eux, c'est un bon parti. Je n'étais pas partante. On dirait bien que je suis la perdante. Je n'aurais pas le droit de revenir sur mes dires. Il est bien trop tard pour rectifier le tir. Je rentre dans le cadre. Je rentre dans la case. En voilà une de plus qui coche la case. Tradition, Occident, contradiction. Ma solution, le paraître. Je me sens disparaître. Française d'Afrique, Diariata Ndiaye est notre invitée. Et là, c'est elle, version slamée.
France Inter. Julia Foyce. Unique en son genre.
Je suis française d'Afrique. Dur, dur, dur d'être française d'Afrique. Je suis française d'Afrique. Dur, dur, dur d'être française d'Afrique. Choisis un noir comme toi, musulman comme toi, oublie les blancs, ma fille, t'auras jamais rien de bon. J'aurais aimé qu'elle le trouve seule, aux règles ne s'est pas pliée, je viens d'envoyer ma fille au village pour se marier. Ne me jugez pas, mais je sentais qu'elle s'égarait. La vie qu'elle menait était loin de ce qu'on attendait. Elle se prenait pour une blanche, avec des pensées de blanche et des envies de blanche. Elle est trop jeune pour comprendre qu'ils se fichent de nous, qu'ils s'en foutent de nous. En vrai, ils nous aiment pas, nous resterons des bamboulins. Moi je l'aime, je veux son bien, même si elle comprend pas très bien. J'ai rencontré mon mari le jour de mon mariage. Je frôlais les 14 ans, ma dot était des coquillages. J'ai changé de village, rejoint l'entourage de mon homme. Les coutumes sont faites ainsi, conservatrices sont les âmes. J'ai peur, j'ai chaud, je me sens bizarre dans ma peau. J'ai la chair de poule, je suis à fleur de peau. J'espère de tout mon cœur qu'elle me comprendra. J'espère de tout mon cœur qu'elle m'en voudra pas de rentrer dans le cadre, rentrer dans la case, d'être la fille de plus qui coche la case. Tradition, Occident, contradiction. Mon rôle en tant que mère, montrer la bonne direction. Je suis africaine de France. Dur, dur, dur d'être africaine de France. Je suis africaine de France. Dur, dur, dur d'être africaine de France.
Elle a les mains jointes devant sa bouche. Elle sourit, elle écoute, elle s'écoute peut-être. Qu'est-ce qu'elle se dit quand elle s'écoute? Bonsoir, Diariata Ndiaye.
Bonsoir.
Vous vous dites quoi, là?
Là, ça fait quoi de s'entendre? Alors, c'est fou parce que d'habitude, tu ne t'écoutes pas,
ouais,
en fait. Et je me dis, c'est vrai que je ne m'écoute pas en réalité. Et là, j'étais en train de me dire, c'est fou cette chanson. Mon père, je ne suis pas sûre qu'il ait déjà entendu.
C'est vrai?
Ouais. Et par contre, je l'ai joué pour la première fois devant ma mère. En 2019.
Ah ouais, il n'y a pas si longtemps que ça.
Il n'y a pas si longtemps que ça,
ah ouais.
En fait.
Et alors, elle vous a dit quoi?
On n'en a pas parlé, en fait. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on parle de ça, de ce qui s'est passé. Parce que c'était tabou, en réalité. Et moi, je n'étais pas sûre de vouloir en parler avec elle. Et quand on en a discuté, d'ailleurs... Elle a carrément fait un déni, quoi, je pense.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, elle vous a dit, ça n'est pas arrivé?
Non, pas ce n'est pas arrivé. C'est, je me rappelle pas que ça s'était passé comme ça.
Ah oui?
Et donc voilà. Mais par contre, elle s'est excusée et je crois que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
Ça change tout.
Bah, ça change tout. J'avais bien vu qu'elle avait compris, mais d'avoir des excuses,
c'est être reconnue, quoi, dans ce qu'on nous a fait.
C'est ça.
française d'Afrique, africaine de France, née en France de parents sénégalais. C'est l'équation impossible ou c'est au contraire l'ouverture à tous les possibles? Comment est-ce que vous la vivez, vous, cette double culture aujourd'hui?
Moi, je la vis bien. Ouais. Je la vis bien et c'est surtout que... Alors, je sais pas si c'est un lien aussi avec mon histoire ou avec mes traumas, mais moi, je me suis toujours sentie française, en fait. Mmh. Pendant très longtemps, je me suis désintéressée de mon pays d'origine. Mmh. Et pourtant, j'en suis imprégnée parce que j'ai été éduquée. Je connais, je connais mes traditions. Je parle... Alors, je mélange le français et le peul, mais je me débrouille, ouais. Je comprends. Et non, moi, je me suis toujours sentie bien, en fait, dans cette double... Enfin, non, pas toujours. Mais je me suis toujours plus sentie française que sénégalaise, tout simplement parce que je connais mieux ce pays que, que cet autre pays d'origine. Donc,
vous nous raconterez dans cette émission comment vous avez grandi les pieds en France et à un moment donné... un bout de vous-même au Sénégal. Ce titre qu'on vient d'entendre, Française d'Afrique, très engagé comme tous vos morceaux de cet album M-O-T-S pour mot M-A-U-X. Vous définissez vous comme une artiviste parce que la création est forcément un combat?
Alors moi, j'ai toujours vu l'art comme un engagement. C'est simple, moi j'ai grandi avec du rap français, hyper engagé. Et pour moi, c'est un luxe d'avoir la parole, d'avoir un micro et d'avoir un public. Et donc, je me suis toujours dit qu'il fallait s'en servir. Et j'ai toujours conçu l'art comme étant forcément engagé.
Alors, comme tel, vous avez rappé, puis slamé, mais aussi créé la toute première application pour aider les femmes en danger, App-L. Vous avez fondé l'association Résonante pour la prévention des violences sexistes et sexuelles et vous venez de publier une bande dessinée Arsène et Marcel me harcèlent sur le harcèlement au milieu scolaire. Bien entendu, tout cela, on va en parler ce soir, mais si je vous tends ce miroir, d'abord, Diarriata, si vous prenez le temps de vous y regarder, qu'est-ce qui vous vient comme mot? Tenez. Écrivez-vous, décrivez-vous, qu'est-ce que vous diriez de vous?
Moi, je me trouve fraîche. C'est hyper bizarre de faire ça. Alors, quand je dis je me trouve fraîche, c'est que c'est vrai. Je me trouve... Enfin, voilà, j'ai quand même 38 ans, tu vois. Et ça se voit pas tant. Donc,
Non, il y a de jolies fossettes sur les joues qui en ajoutent au côté juvénile. Vous êtes en paix avec votre reflet?
Ben ouais.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Et vous l'avez toujours été?
Non, parce que comme tout le monde... t'as des périodes où t'as des complexes, où tu te trouves pas forcément bien. Et mais aujourd'hui, ouais, je pense que je m'y suis faite, quoi.
Vous êtes en paix.
Ouais, je suis en paix.
Et est-ce qu'être en paix, c'est aussi être en streetwear? Je dis ça parce qu'à la question quel est votre mauvais genre à vous, c'est ce que vous nous avez répondu en préparant cette émission.
Alors ouais.
Ouais.
Exactement. Et je pense que si je veux être en paix, et si je veux être à l'aise, ou même avoir confiance, faut que je sois à l'aise, quoi, dans mes vêtements et dans mes baskets. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, quand je réfléchissais au métier que je voulais faire plus tard, je me disais, je veux juste un métier qui m'oblige pas à porter des talons, qui m'oblige pas à me mettre un costume, en fait. Et en plus, j'ai un peu de bidoche. Tu vois? Non, mais, voilà, je veux pas me retrouver à rentrer le ventre ou à me dire, oh là là, à être gênée aussi. Mmh. Et je pense que ça compte. Donc, ouais, je suis hyper à l'aise en mode streetwear.
À part ça, vous mordez les lèvres quand vous stressez, quand vous pouvez, vous dormez ou alors mieux, vous conduisez. Votre voiture, vous l'adorez. Dieu sait pourquoi vous la perdez tout le temps, partout. Plus fort que vous, passez des jours à la chercher pour vous apaiser. Du thé au lait et pour rugir, écrire en cours de maths, c'est là que c'est né. Les premières lignes griffonnées, vous n'aimiez pas, du temps à tuer. Et puis il y a des comptes à régler, crois pas que c'est simple, crois pas que c'est dur, crois juste en toi, crois pas les gens. C'est du damso, 60 années, c'est fou, ça vous colle à la peau, vous y avez cru, vous avez pu, vous avez voulu, l'avez fait, le reste vous l'avez arraché.
C'est ce que je dis se perd dans le silence. Dans les espaces et le flou, nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes s'embrouillent, les choses que l'on laisse. Devenir fou, mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout.
joue de nous. Oh, elle se joue de nous.
Clou et Pomme galant sur France Inter, émission très très musicale ce soir et je m'en réjouis parce que c'est grâce à vous, Diriatan Diaye, unique en votre genre, vous êtes notre invité.
Unique en son genre.
Et on commence par le début, en général c'est quand même mieux quand ça se passe comme ça. Vous naissez très exactement le 1er septembre 1983 à Saint-Dié-des-Vosges. Emmenez-nous avec vous, ça ressemble à quoi Saint-Dié-des-Vosges, ça ressemble à quoi chez vous?
Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une petite ville de province dans les Vosges, donc avec des montagnes pas très hautes, mais c'est fou. Mais le premier souvenir que j'ai, c'est que de l'appartement dans lequel j'ai grandi, quand on ouvrait la fenêtre, tout autour de nous, on voyait des petites montagnes vertes. Quoi. Et en même temps, c'est hyper bizarre parce que tu te demandes comment tu te retrouves dans les Vosges. Oui. Et ça, je l'ai découvert après.
Ouais.
Parce que c'est hyper particulier, les Vosges. C'est assez raciste, en fait.
C'est vrai.
Ouais, c'est assez raciste. Ouais. Et c'est vrai que c'est étrange. Toute une communauté sénégalo-mauritanienne dans les Vosges, c'est hyper étrange. Et en gros, l'explication, c'est que mon père et la plupart des pères des différentes familles travaillaient dans les usines textiles. Ouais. Et elles ont délocalisé dans les Vosges. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les Vosges. D'accord. Avec une aussi grande communauté, quoi.
Alors, vous êtes la cinquième.
C'est ça.
De 13 enfants.
C'est ça.
Ça donne quoi au quotidien, 13 gamins?
En fait.
Ils sont pas tous gamins, du coup, j'imagine, parce qu'entre le premier et le dernier, il y a pas mal d'années.
Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, on est quand même assez rapprochés. Donc, Alors, ça donne quoi? Ça donne, t'es obligé d'être opérationnel, en fait. Parce que très rapidement, t'as conscience que si t'es pas opérationnel, ça peut pas marcher.
Ça veut dire autonome, par exemple?
Autonome, t'essayes de pas prendre trop de place, t'essayes d'être efficace, en fait, et de pas prendre... Enfin, vraiment, si je devais utiliser un terme, c'est ça, c'est celui-ci, c'est... T'essayes de pas prendre de place. Parce que tu te dis, ça peut pas tenir, quoi. Ouais. Et c'est hyper carré. Faut que tout le monde soit OP.
Et qui régente ça? C'est votre mère ou c'est votre père?
Non, c'est la mère.
Ouais.
C'est la mère, le père,
il est pas là.
Ça n'existe pas. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il travaille. Donc, toute cette organisation, elle dépend de la mère.
Et votre mère, c'est quel genre de mère?
Et ma mère, en réalité, quand j'y pense, je me dis j'ai une mère différente des autres mamans, tout simplement parce que c'est bête, mais ma mère, elle conduit, elle travaille.
Elle est animatrice, hein?
C'est ça.
C'est ça. Ouais.
Elle vient, elle est à la retraite depuis le mois de janvier, là. Mais déjà, moi, je grandis avec une mère qui parle français, qui sait écrire, qui travaille. Alors, elle a pas tout le temps travaillé, mais elle s'est mise à travailler un moment, et qui conduit. Donc, je me retrouve quand même avec une mère différente des autres. Parce qu'elle a quand même une certaine autonomie. Et moi, le souvenir que j'ai de ma mère, c'est celle qui aide tout le quartier pour rédiger des courriers, pour comprendre l'administratif.
Votre père, il est comment? C'est quel genre d'homme et quel genre de père?
Alors mon père, un peu comme tous les pères quoi, de ma génération, il parle pas trop, il s'occupe pas trop de l'éducation. Mais en fait, tu te dis... qui représente l'autorité, alors que tu ne sais même pas pourquoi, en fait.
Enfin... Ah oui. C'est d'emblée, c'est dit comme ça, c'est donné comme ça.
Ouais. Il a de la prestance, tu vois. Ouais. Mon père, en plus, il est hyper grand. il est grand et il a une une prestance naturelle, tu vois. Parce que tu vois, j'ai pas le souvenir de m'être fait embrouiller par mon père ou quoi. Il était même pas sévère, mon père.
Il y avait pas besoin.
Il y avait pas besoin. Et donc, tu vois, ça, c'est quand même assez particulier. C'était genre, c'était normal, quoi. C'était le père, c'est l'autorité naturelle. Moi, c'est de ma mère que je me cachais. C'est pas de mon père. Parce que je me disais, il est un peu à l'ouest, il calcule pas trop, il va pas
se rendre compte.
Il va pas se rendre compte, tu vois. Et à côté de ça, il est hyper drôle. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, mon père, il ressemble à Fernandel.
Ah oui?
C'était son surnom. Et donc, en noir. Fernandel en Renoir. C'était son surnom, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'il était drôle. Donc, il faisait le méchant, mais en réalité, il aimait bien se marrer, il faisait des vannes, etc. Et en même temps, on en avait peur de façon assez naturelle, mais c'est plutôt de ma mère que je me cachais, quoi.
Puisqu'ici, on parle de questions de genre, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir reçu une éducation genrée? C'est-à-dire qu'il y avait un traitement différencié entre les filles de la fratrie et les garçons de la fratrie?
Alors là, ce qui est particulier, c'est que donc ma mère, elle a 8 enfants.
D'accord.
7 filles et un garçon.
Wow.
Donc, en réalité, on a été élevés comme des filles. Et mon frère, pour le coup, je pense que ça a dû être un peu difficile pour lui. Ma mère, elle était assez stricte, en fait. Enfin, voilà,
quel est votre rapport à vous avec les garçons, justement, quand vous êtes plutôt pré-ado ou ado? Quel est votre rapport à l'amour, au désir? Qu'est-ce qu'on vous en a dit ou pas chez vous?
Ça fait pas partie. Alors, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'existe pas. Auquel tu penses, tu vois, t'as des crushs, tu vois, mais ça n'existe pas. Donc tu sais, de toute façon, t'as été élevé en te disant que l'amour, c'est forcément un mariage.
D'accord.
Tu vois, tu te dis pas que ça existe d'avoir des petits copains, parce que ça ne fait pas partie...
C'est même pas que c'est interdit, c'est que ça n'existe pas, quoi.
La seule fois où tu peux envisager d'être en couple, c'est pour te marier. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Le reste n'existe pas.
Il y a quand même un garçon qui débarque dans votre vie, ou disons dans votre tête, dans votre imaginaire, dans vos écouteurs. Vous avez 14 ans quand le rappeur Roca débarque sur les ondes avec son tout premier album, Entre deux mondes. Aujourd'hui, grand classique du rap français. Il a l'un des flows les plus rapides du pays. Il vous saisit, il nous saisit. Et ça, c'est son tout premier tube.
Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire, de cash flow. Dois-je passer ma vie en marge d'un système qui me dévisage? Mon panache comme bagage sûr, j'assure mon avenir. Mon futur, je le vois prospère, pas duplex. Busy compte en caisse rempli, grosse sacoche. Borsalino, BM, Porsche, nombreux rêves de mioche m'ont poussé à remplir mes poches. Avenue Foch, gloire, pouvoir sortir de la rue. Croire, vouloir se battre pour avoir ce qui t'est du nez. Jamais grosse perdue, le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Sors de ton cul de sac du cycle infernal, du gène que le béton détraque. De l'ignorance, la délinquance, la violence, ta soi-disant ma chance que toi-même sème par négligence. Échec, scolaire, vice, mauvaise compagnie qui te trahissent. Fils démoli pour reconstruire ce que tu négliges. Jadis, je crois en moi, en toi, le futur est entre nos mains. Et rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'aime, dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque.
Quel effet vous font ces jeunes de l'univers quand vous les entendez?
Mais moi, je les crois, en fait. C'est-à-dire que Roca, moi, quand je l'écoute, je le crois, tu vois. Je me dis, ok,
il y a qu'à y croire et
ouais,
on y va.
Tout est possible, tu peux tout faire, tout est en toi, va le chercher. Je me dis, ok.
Et vous rêvez de quoi à ce moment-là? Quand vous êtes ado, vous vous imaginez comment plus tard? Vous rêvez de faire quoi? Qu'est-ce qui vous tient?
En réalité, quand je suis ado, j'écris déjà. J'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans. J'écris déjà et je veux être rappeuse, quoi.
Ah oui.
Vraiment. Je me dis, de toute façon, je vais être rappeuse. Et en plus, tu sais, pour me motiver, je me suis toujours dit, je serai la meilleure rappeuse de France, etc. Tu vois, je me motivais. Ouais. Et donc, à 14 ans, j'écrivais déjà. Mais je rappais en cachette. Donc j'écoutais plein de rappeurs et je rappais en cachette et je me disais de toute façon un jour je serai rappeuse, quoi. Et vraiment avec cette idée, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai des choses à dire, quoi. J'ai des choses à dire, c'est pas normal qu'on n'entende pas les filles. Et j'avais vraiment déjà ce côté-là, j'avais des textes qui parlaient de moi, de mes copines, de... Je sentais bien que j'allais avoir des problèmes avec mes parents, parce que j'ai très vite compris que les rêves ou les désirs que j'avais ne correspondaient pas à ce qu'on allait attendre de moi.
Oui, parce que vos parents ont d'autres projets pour vous. Vous partez pour la première fois en vacances au Sénégal, vous avez 15 ans.
C'est ça.
C'est ça. Qu'est-ce qui se passe une fois là-bas?
Donc, j'arrive dans mon village et on m'accueille comme étant la femme de mon cousin, en fait.
Donc, vous apprenez que c'est le plan. C'est
ouais, celui-là. En fait, quand j'arrive, je comprends, mais au bout de même pas 30 secondes, c'est que j'ai l'accueil, en fait, de « Elle est arrivée, la femme d'Alassane est arrivée. » Et je me dis « Ok, je crois qu'il parle de moi. » je comprends tout de suite et je me dis « Bon, c'est pas grave, je vais régler le problème, en fait. » Okay. Je me dis, ouais, c'est un malentendu, quoi.
Ouais.
Mais, et en même temps, tout de suite, je me dis, c'est un malentendu, mais je vois bien que je peux pas le dire maintenant, là.
Qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi vous pouvez pas le dire à ce moment-là?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, c'est la première fois que je vais dans mon pays d'origine. Mmh. Et c'est hyper émouvant, en fait. C'est que t'es noire, et c'était la première fois que je comprenais pourquoi j'étais noire. C'est bizarre de le dire comme ça.
Non, enfin c'est très joli, mais et c'est très fort. Mais...
Et donc j'ai beaucoup d'émotions déjà quand j'arrive, quand l'avion se pose, quand j'arrive à l'aéroport. Donc déjà t'as beaucoup d'émotions parce que c'est vraiment émouvant. Tu comprends, tu te dis ah j'aurais pu naître là quoi, j'aurais pu être une de ces filles là.
Et puis j'imagine qu'on n'a pas envie de blesser tous ces gens qui sont de notre famille et qu'on rencontre pour la première fois, on a envie de pas les décevoir, c'est ça?
C'est même pas, en fait, tu te dis même pas ça, c'est que t'es dans ta propre émotion, c'est que moi, je vois mes oncles, mes tantes, je vois mes cousins, mes cousines, et je vois les sosies, je vois ma famille. Et c'est beaucoup d'émotions, en fait, parce que tu les découvres, t'as 15 ans, et tu te dis, ah, mais il a la même tête que mon père. Ah ouais, j'ai vraiment un oncle, quoi. Et à ce moment-là, tu te dis, oh, c'est pas grave, ils se trompent, de toute façon, c'est même pas le moment de leur dire que t'es pas la femme d'eux et que tu seras pas la femme d'eux. Donc
et vous retrouvez embarqué dans une machine qui vous...
Mais en fait, je me retrouve, je comprends que ben que c'est mon mariage, en fait.
Et vous êtes plus au volant de la voiture, quoi.
Ah non, mais pas du tout. En fait, ça va quand même assez vite dans ma tête. C'est que je me dis, oh là là, ok, je viens de comprendre. C'est pas comme si j'étais surprise sans l'être. C'est-à-dire que j'ai grandi avec cette idée que j'allais pas forcément choisir mon mari, tu vois.
D'accord, ouais.
J'avais des exemples.
Vos parents?
Déjà. Et puis, comme je disais, j'ai grandi dans une grande communauté, j'ai des grandes sœurs, j'ai un grand frère. Enfin, quand je disais tout à l'heure, j'ai compris très rapidement que ça me correspondrait pas, c'est que je me disais, oh là là, comment je vais faire pour refuser? Et c'était pas la première fois qu'on me parlait de mariage. Donc, et je me rappelle des discussions que j'avais avec ma mère, je lui disais, mais non. Tu vois, je disais non, quoi. Et quand je suis arrivée, et je me suis dit, oh, c'est cette version-là qu'ils m'ont faite. Parce qu'ils ont vu que de toute façon, les autres versions ne marcheront pas. Et vraiment, je me dis, oh là là, ils m'ont fait cette version-là. Ils m'ont piégé, quoi. Ils savent que je peux pas dire non. Je me dis ça, et en même temps, très rapidement, je me dis, fais pas trop la folle non plus. Parce que le plan, c'est quand même de retourner en France.
Okay.
Et j'avais déjà des exemples de jeunes filles qui étaient parties dans leur pays d'origine et qui étaient pas revenues.
Parce que l'idée, c'est que le mariage va avoir lieu dans la foulée et sur place, c'est ça?
Ouais, je sais que je suis là-bas pour 15 jours.
Le piège, il se referme très vite, quoi.
Ouais, je sais que j'y suis pour 15 jours. Et que pendant ces 15 jours, j'ai intérêt à ce que ça se passe bien. Parce que si, au bout de 15 jours, je veux reprendre l'avion et rentrer en France, il va falloir que je sois OP, quoi.
Parce que ça, en revanche, c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez... La tradition vous permet malgré tout de d'épouser quelqu'un sur place et de repartir en France.
Ouais,
vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec lui.
Alors il y a plein de versions différentes. Moi, je peux te raconter plein de versions différentes de mariages. Donc des mariages qui se sont passés là-bas, la personne est restée là-bas. Des mariages forcés en France. Et moi, la version c'était je vais là-bas, je me marie et je reviens parce que le plan c'est de faire venir mon mari en France.
D'accord.
Et donc moi, je comprends tout de suite que le plan c'est ça. Donc je me dis déjà cool. C'est horrible, mais je me dis, ça va, je...
Au pire, entre en France.
Ouais. Et surtout, c'est complètement fou, parce que je me dis, dans mon malheur, je me dis, ah, j'aurais pu avoir une version encore plus grave que celle-là. Hein. Ouais. Parce que je me dis, si ça avait été en France, bah, pour le coup, ça aurait été plus compliqué, parce que, à la fin des 15 jours, tu pars pas, tu vas rejoindre ton mari dans son appart, quoi. Donc, très rapidement, je me dis, ok, je comprends le plan. J'ai quand même des discussions avec des tantes, des oncles. J'essaye de leur faire comprendre que je suis pas OK. Ça marche pas. Et c'est pour ça que dans cette chanson, je dis « se relaie ». Parce que vraiment, j'ai tout tenté, quoi. J'ai essayé de dégoûter mon mari
en lui disant, mais de toute façon, mais je suis nulle comme femme. Enfin, tu vois, je suis nulle, je fume, je bois, j'ai un mec, je suis pas vie. Enfin, vraiment, je lui sors, vraiment, je lui dis, mais tu peux pas aimer une meuf comme moi, quoi. En gros, aide-moi, quoi.
Lui, il a quel âge?
Je sais même pas, hein. Il a 24 ans, tu vois, ou un truc comme ça. Et moi, j'en ai 15, mais... Et en fait, je me dis, bon, j'ai essayé, ça marche pas, bon, bah, je vais faire comme si c'était OK, quoi.
Donc, on va se marier, et puis la suite, on verra. Le plan, c'est de rentrer en France, quoi.
Le plan, c'est de rentrer en France.
OK. Et puis, il y a quelqu'un qui va croiser votre route aussi, un petit peu comme Roca, qui va renforcer votre détermination à 16 ans. C'est Bams qui vous apprend à dire non.
Déjà petit, trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite. Mais ma conduite explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite. L'engraineuse, mon catalogue me pousse vers l'exit, j'en deviens trop haineux. Je me braque, ça m'exaspère, on dit que je suis teigneuse. Me fâche si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là on me trouve capricieuse. Des mots ininterrompus à m'en donner des otites. Maudite, quand je m'attaque aux théories, je les discrédite. J'irrite le commun des mortels, je détériore telle une rebelle. J'avoue, je fous le bordel. Je tombe les cloisons, je sors de mes gonds. Prends ton droit, serre-en toi. C'est facile de crier non. Inutile pour ça d'avoir des ronds. Si je vois que je sature trop, je lance mon juron. Non, nine, no, nada à la niette. Aïelanga, nine, eh, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Aïelanga, nine, eh. Un peu moins de type.
Non, extrait de l'album Vivre ou mourir de Bams, rappeuse, mais aussi athlète de haut niveau, mais aussi licenciée en mathématiques, mais aussi révélation Printemps de Bourges, mais également militante féministe et antiraciste et accessoirement mère de deux enfants. Bref, une extraterrienne comme elle se définit elle-même. Quel rôle a-t-elle joué dans votre vie?
Mais alors, elle a... c'était la première fois que je voyais une jeune femme noire libre. C'est fou de se dire ça, comme ça. Mais tu vois, je me rappelle de sa pochette, je me rappelle du titre, et je me rappelle de toutes ces chansons de cet album, et particulièrement de cette chanson. Et cette meuf-là, tu sais, comme je disais tout à l'heure, Roca, je l'ai cru sur parole, mais elle, encore plus, quoi. Et c'est pour ça que j'ai aussi conscience de l'importance que peuvent avoir les artistes sur la construction des gens. Et je l'ai écoutée, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, cette fille-là, elle existe. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça que je veux être. Et donc, quand je tombe sur cette chanson « Non », je me dis « Ah ouais, c'est fou, c'était la première fois qu'on me disait ça, quoi. T'as le droit de dire non. C'est fou. »
Donc vous rentrez en France et vous dites « Non ».
Je rentre en France et je dis « Non ».
Mais comment on défait un mariage comme celui-là?
Alors, c'est un mariage religieux. Mmh. Donc, en réalité, comme je disais, des situations plus complexes que les miennes, il y en avait plein. Et là, c'est un mariage religieux, donc en réalité, il n'y a rien d'officiel.
Mais à condition de rompre avec sa famille. C'est-à-dire que du coup, ça impliquait de vous opposer très frontalement aux vœux de vos parents.
En fait, c'est même pas moi qui prends la décision de partir. C'est qu'en réalité, je n'ai pas eu le choix, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est que ta liberté, tu l'as... Enfin, tu vas la chercher. C'est-à-dire que moi, j'étais face à un mur, en fait. C'est que quand je leur dis « je ne veux pas, ça marche pas, enfin, je veux pas, qu'est-ce que vous m'avez fait ?» je suis pas d'accord, je vais pas faire les papiers. Enfin, tu vois, j'ai un souvenir, par exemple. On m'obligeait à l'appeler, à garder un lien avec lui. Et ça, c'était horrible. Et donc, je l'appelais. Les premiers temps, je l'appelais, j'étais dans ma chambre. Ouais. Et je l'insultais.
C'est vrai.
Mais c'était un truc de ouf. Je l'insultais. Et un jour, il s'est plaint, tu vois, de mon comportement. Et après, je devais l'appeler, il y avait mes parents à côté. Et c'était horrible. Tu vois, ce souvenir-là, il est horrible. Et donc, quand tu comprends que de toute façon, ils ne te comprennent pas. Moi, quand je leur disais, mais je ne l'aime pas, je ne veux pas, je ne ferai rien, de toute façon, je ne le ferai pas venir. On te dit, mais comment tu peux dire que tu ne l'aimes pas, tu n'as pas essayé? Parce que pour eux, l'amour, ça se...
C'est-à-dire qu'entre eux, l'amour est né après leur mariage, donc ça pouvait aussi vous arriver, quoi.
La notion de tomber amoureux, je ne suis pas sûre qu'ils l'intellectualisaient. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que je me dis, effectivement, pour vous, ça a marché. C'est-à-dire que vous avez été, mes parents ont été mariés de force, comme tout le monde en fait, de cette génération. Personne n'a choisi, ça n'existe pas le choix. Et en réalité, leur mariage, il tient la route. Ils ont des enfants, ils sont heureux, ils ont appris à se connaître, et puis c'est un homme et une femme, et ils sont adaptés, quoi. Parce que ma mère, elle est sympa, mon père, il est sympa, tu vois. Et c'est cool. Et ils ont été élevés là-dedans, donc de toute façon, ils n'avaient pas le choix, entre guillemets, que ça fonctionne. Donc eux, ce qu'ils veulent, bah, c'est la même chose pour leurs enfants. Et ça, c'est étrange à comprendre. C'est-à-dire que eux pensent vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi.
Sauf que pour vous, c'est non, quoi.
Sauf que pour moi, moi, qui suis née en France, qui ai regardé les séries, les films, qui a un concept de l'amour, quoi, ça, c'est juste impossible.
Vous donc, tenez combien de temps?
Je tiens jusqu'à mon bac, je passe mon bac. Ouais.
Parce que ça, c'est la clé de la liberté, d'avoir votre bac, c'est
mais
ça?
Mais moi, j'ai mon bac que pour ça, donc entre-temps, je passe un BAFA, je passe mon bac et je pars. Et moi, je passe mon bac en me disant, bon, ben, d'avoir une carte d'étudiante, je vais m'inscrire à la fac. Tu vois, par exemple, je me suis inscrite à la fac, j'ai jamais mis les pieds à la fac. Bref, mais je me disais, bon, ben, je vais avoir une carte d'étudiant et je me barre chez un ami à Paris qui m'héberge et je commence à bosser, quoi.
Et vous partez, effectivement, vous débarquez en région parisienne quasiment seule ou presque. Dans vos bagages, il y a cette colère, cette rage qui sourd, celle du plus jamais ça, plus jamais tête baissée, plus jamais entravée. Dans vos bagages, il y a du BAMS, du Roca, du NTM bien sûr, et puis l'envie de tout casser, oui, mais pour mieux respirer. Paris sous les bombes, mais qu'est-ce que c'est bon! Et ça, c'est grâce à vous, Diryatane Diaye, merci beaucoup. NTM, c'est quoi comme souvenir pour vous?
NTM, en dehors de leur musique, c'est surtout mes sœurs qui m'ont fait découvrir NTM, tu vois. Ouais. Et pour le coup, au début, j'aimais pas NTM. C'est fou, c'est bizarre, tu vois, ça me parlait pas, je trouvais que c'était un peu trop hardcore, tu vois, un peu trop violent. Et en fait, je pense que c'est venu, j'ai commencé à aimer quand j'ai commencé à être en colère. Aussi,
bizarrement.
Bah ouais, ouais, tu vois. Et ouais, premier souvenir, c'est mes sœurs qui me font découvrir NTM. J'aime pas trop et puis finalement je kiffe à partir du moment où je suis vénère, quoi. Tu vois.
Alors, ces souvenirs, vous allez continuer à les égriner pour nous dire ce que vous avez fait de cette rage-là, de comment elle est devenue combat et comment le doux, comment le beau, comment le lien à l'autre est revenu dans votre vie, tout emporter et tout faire basculer.
France Inter, unique en son genre.
À la technique ce soir, Philippe Duclos, à la réalisation Marianne Crimbaud, Ophélie Vivier, notre chargée de programme. Vous êtes sur France Inter, bienvenue si vous nous rejoignez. Diarrieta Ndiaye est unique en son genre, elle est notre invitée. Nous en étions là, Diarrieta, à la petite vingtaine. Vous vivez en région parisienne, vous y travaillez comme animatrice. Vous continuez à écrire avec les jeunes que vous suivez, vous montez des ateliers d'écriture, mais également avec l'une de vos sœurs, avec qui vous montez un groupe de rap. Comment se passent vos débuts dans la musique ?
Alors ça se passe assez bien en final, tu vois, avec justement là on parle de ce groupe que j'ai créé avec ma sœur qui s'appelle Essence avec un S à la fin. Donc tu vois, je crois qu'il y a une petite notion de bref, et c'est fou parce que on s'est professionnalisé grâce à BAMS justement. Parce que on rencontre BAMS un jour par hasard et elle nous présente donc Junk As Lou, qui est le DJ avec qui elle travaille et qui fait sa musique et qui la produit, et on s'est professionnalisé grâce à lui. Et en parallèle, donc je crée la formation Dialem.
Donc c'est deux choses en parallèle. Il y a le rap et il y a le slam. Dialem de dialogue plus dilemme, c'est ça?
Et c'est exactement ça que je monte avec Patrick De Torey, qui est guitariste et compositeur. Et donc j'ai les deux formations. J'ai d'un côté le rap avec ma sœur.
Ouais.
Et puis j'ai Dialem avec vraiment cette idée de parler des violences en fait.
Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un moment de votre vie, parce qu'il y a ce que vous avez vécu, mais à quel moment ce que vous vivez se conscientise? À quel moment vous vous dites on a un problème avec les femmes dans ce monde-là? À quel moment, est-ce qu'il y a un moment où vous dites je suis féministe ou...
Je me le dis même pas. En fait, tu sais, quand est-ce que je l'ai réalisé vraiment? Un jour, je joue la chanson Française d'Afrique.
Ouais.
Lors d'un colloque sur les mariages forcés. Je venais d'écrire la chanson et je la propose à l'organisatrice qui me dit, ah, mais c'est génial. Déjà, à la base, elle m'invite à ce colloque. Et je lui dis, ouais, mais je viens slammer. J'ai une chanson. C'est un peu comme ça. Je m'incruste, quoi. Je slame ce texte-là et il se passe un truc hyper dingue, c'est que ça amène une discussion dans la salle. J'ai des jeunes filles, j'ai des parents qui parlent et qui reprennent les paroles de ma chanson. Et à la fin de cette prise de parole, j'ai Ernestine Ronet, qui est la papesse de la lutte contre les violences faites aux femmes, enfin l'une d'entre elles en tout cas, qui vient me voir et qui me dit mais c'est génial. Donc elle vient me voir avec ses collègues, elle me dit mais c'est super cette chanson, mais est-ce que vous avez d'autres chansons sur les violences? Et je lui dis ben ouais, en fait
il y en a une dizaine, c'est ça, l'album mot pour mot?
Donc il y en a une dizaine, donc j'en avais quelques-unes qui existaient déjà. Et quand elle me pose cette question et qu'elle me dit mais c'est génial, moi je veux que tu viennes jouer, je crée ce spectacle en fait. J'écris deux trois chansons en plus, quoi. Mais elles existaient, quoi.
Alors c'est un spectacle et un album, et avec l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, vous commencez à tourner avec cet album-là. Je crois qu'on est entre 2007 et 2009. Il y a une dizaine de titres où vous évoquez très frontalement des situations aussi concrètes que l'excision, les violences sexistes et sexuelles, conjugales ou pas d'ailleurs, ou encore dans celle-ci, l'inceste. Et le morceau s'appelle Cœur de pierre.
Ben tu sais mon papa, et ben moi j'ai deux papas, y a mon papa que j'aime bien et le papa que j'aime pas. Le papa que j'aime bien, quand il rentre à la maison, il est souriant, il parle doucement et calmement. Je lui parle de l'école, de mon copain Florian, il m'écoute, me donne mon goûter et m'embrasse sur la joue. Le papa que j'aime bien me donne envie de rester sage, et même qu'à l'école, maîtresse me donne de belles images. J'aime mon papa, surtout quand il est comme ça, même que j'en profite avant que papa méchant soit là, parce que tu sais mon papa, et ben, y a mon papa que j'aime bien et le papa que j'aime pas. Le papa que j'aime pas, quand il rentre à la maison, il sent l'alcool, il est fâché et il tape sur maman. Alors je vais dans la chambre, je commence à pleurer, je me cache sous le lit mais je les entends quand même crier. Eh ben tu sais mon papa, eh ben moi j'ai deux papas, y a mon papa que j'aime bien et le papa que j'aime pas. Le papa que j'aime bien, quand il rentre à la maison, il dit pardon à maman et m'apporte des bonbons. Il nous dit qu'il nous aime, qu'il fera attention, qu'il ne fera jamais de mal à son joli petit garçon. Il met sa main dans mes cheveux et me fait des bisous sur le front, et moi je suis content, je l'aime encore comme avant. Parce que tu sais mon papa, eh ben moi j'ai deux papas, le papa que j'aime bien et le papa que j'aime pas. Le papa que j'aime pas, il est méchant avec maman. Il la gronde, lui dit des gros mots, même que quand j'avais 6 ans, il lui a tiré les cheveux, lui a même cassé une dent. J'ai eu peur comme dans les manèges, alors j'ai appelé tonton, il est tout près. À côté de chez maman, il y a sa maison, il a appelé la police et les pompiers, ça faisait pimpon.
Cœur de pierre sur l'album Mot pour mot. Un album, un spectacle, une expérience de vie aussi, hein, forte, intense. Vous l'avez joué 200 fois, je crois, dans les collèges et dans les lycées.
Ouais, et puis je le joue encore, c'est ça qui est fou.
Ouais. Vous, et à chaque fois, il se passe quoi? C'est-à-dire que, est-ce que ce qui se passe, il se passe la scène? Est-ce qu'il y a un après la scène, un échange avec les lycéens,
c'est
avec
ça,
les collégiens?
Ouais. Donc, à la base, l'idée de ce spectacle, c'était quand même assez naïf. Hein. Tu sais, je me suis dit, oh, c'est vachement bien d'aller parler des violences aux jeunes. Ouais. Je vais le faire dans les collèges et dans les lycées. Et avec le recul, tu vois, je me dis, j'ai fait ça parce que c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé qu'on me parle des violences à l'école, en fait.
Et pour qu'on vous aide à les repérer, pour qu'on vous aide à vous en défendre.
Pour qu'on me tende la perche, en fait. Ouais. Pour me tendre la perche, tu vois. Et donc, c'est lorsque j'ai vu, lors de la première représentation, que j'avais des témoignages, en fait, que je me suis dit, attends, ce spectacle, il permet aux gens de témoigner, c'est fou. Et ils ont plein de questions auxquelles je ne sais pas répondre. Et donc, avec l'Observatoire, très rapidement, on s'est dit, bon, bah, on va jouer ce spectacle et puis il va y avoir un échange avec le public. Et c'est pas moi qui les menais au départ.
D'accord.
Donc, entre-temps, je me suis formée. Et donc,
c'est-à-dire des chiffres, des faits, des modes de fonctionnement,
des mécanismes des violences. Donc je me suis formée auprès de Muriel Salmona, auprès d'Emmanuel Piette, d'Amnesty.
Mémoire traumatique, le planning familial,
le CFCV.
Collectif féministe contre le viol.
Exactement. Et donc très rapidement, je me dis, bon, ben, après ce spectacle, il faut que j'échange. Parce que je vois bien que les questions qu'il me pose sont trop graves.
Oui, déjà. C'est de la dynamite, de toute façon, donc ils répondent, c'est...
Ben, c'est ça, les questions sont hallucinantes, et puis le nombre de témoignages est juste hallucinant, donc je me dis, il faut que j'échange et que je leur dise que des solutions existaient, tu vois. Donc je fais ça, et je le joue encore, et on en est... C'est terrible, mais il y a toujours autant de questions graves, et quand je parle de questions graves, ou de réflexions hyper graves, c'est des réflexions du style... Ben non, moi, mon corps appartient à mes parents jusqu'à ma majorité. Ouais. Et donc ça, ça veut quand même dire quelque chose.
Et vous vous dites, mais 20 ans après, on en est encore là. C'est-à-dire que pour les gamines d'aujourd'hui, sont dans la même situation que vous, au même âge, et ça bouge pas.
Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, il y a beaucoup de méconnaissances sur la question des violences. Et tu t'en rends compte quand t'en discutes avec les gens. Ouais. C'est qu'on a l'impression, tu sais, en plus, quand t'es engagé, quand c'est ton sujet, t'as l'impression que tout le monde sait à peu près ce que tu sais, quoi. Que tout est logique.
En fait, non.
Et en fait, pas du tout. Et en même temps, c'est normal qu'ils n'y connaissent rien. Qui leur parle des violences?
Alors, on va reprendre le fil de votre engagement, mais quand même un petit pas de côté, parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie personnelle, et non des moindres. Vous devenez maman, et trois fois.
Oui.
qu'est-ce que ça change pour vous, dans votre rapport au monde, dans votre rapport à l'autre et dans votre rapport à vous-même?
D'avoir des enfants, tu sais, c'est... Enfin, je sais... Enfin, oui, t'as des enfants, j'imagine.
Mmh.
Ouais. Et alors déjà, ce qui est fou, c'est que je m'étais jamais projetée, en fait.
C'est vrai?
C'est fou, hein. Je m'étais jamais dit, ah ouais, plus tard, je veux me marier, je veux des enfants... J'ai vraiment enchaîné ma vie, mais en mode, j'ai rencontré mon gars, quoi, mon mari. On s'est installé très rapidement ensemble, on s'est dit qu'on allait faire une coloc amoureuse parce que c'était plus sympa pour se voir, parce qu'on galérait à se voir. Et puis, vraiment, je me suis jamais dit que je voulais des enfants. Mm-hmm. Et en réalité, je suis ravie d'avoir trois enfants, et en même temps, ça fait un peu flipper quand même.
Parce que?
Ben parce que t'as cette responsabilité, tu veux bien les élever, tu veux les protéger de ce monde, parce que toi, tu connais aussi la réalité de ce monde.
Deux filles, puis un garçon, vous avez plus peur pour vos filles?
Non, mais j'ai peur pour les trois. Mmh. C'est une responsabilité d'éduquer des enfants. Donc, et j'ai bien conscience qu'il y a tout ce que tu fais en tant que parent, mais il n'y a pas que les parents qui éduquent les enfants. Il y a le reste de la société aussi qui les éduque.
Sauf que donc, la société, vous travaillez à la faire bouger.
Ouais, mais...
Donc ça veut dire que vous avez un tout petit peu d'espoir.
Mais bien sûr, mais en même temps, j'ai aussi conscience, et je pense que tu me demandes... Enfin, la question, c'est... Enfin, ouais, moi, ça me fait... J'ai une pression par rapport à mes enfants, parce que, comme tout le monde, je veux bien élever mes enfants.
Et peut-être que c'est eux qui donnent encore plus de nerfs, encore plus de corps à vos engagements. En tout cas, ils vous font changer de ville et changer de vie. Vous vous installez à Nantes en famille, vous fondez votre association Résonante, association de prévention et de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, destinée notamment à un public jeune. On va faire un saut dans le temps de 8 années et on vous retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. Nantes, c'est loin.
Welcome to Las Vegas!
Alors, ce sont des images que Marianick a attrapées sur votre page Facebook, hein, et on vous voit badge au cou déambuler dans les allées du CIS, le rendez-vous incontournable de la high-tech mondiale. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Non, mais la question, je me la pose encore, quoi, tu vois. Non, mais c'est fou, et tu vois, je me dis, mais les personnes qui nous écoutent doivent se dire, mais que ça part dans tous les sens, mais en fait, tout est lié, quoi.
Évidemment.
C'est-à-dire que tout a un lien avec la question des violences. Donc, on se retrouve au CES de Las Vegas en 2019 pour aller chercher notre prix, quoi. On a remporté un prix avec l'application Appel qu'on a créée.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette application ? Il y a une appli et il y a un bracelet connecté.
Alors, c'est ça. Donc, c'est une application donc qui existe depuis 2015 et l'idée c'était vraiment de centraliser vraiment tout ce qui pouvait être utile aux femmes victimes de violences et à leurs proches.
Donc c'est des ressources, des informations,
C'est ça, c'est que c'est simple, je suis partie de toutes les problématiques qu'avaient les victimes que je rencontrais et je me suis dit bon bah on va penser des fonctionnalités. Donc il y a une fonctionnalité d'alerte. L'idée c'est de pouvoir prévenir des personnes de confiance quand on est en difficulté, tout simplement parce qu'on leur dit d'appeler la police. Sauf que il y a plein de situations dans lesquelles tu ne peux pas appeler la police.
C'est-à-dire que par exemple, ils rentrent dans leur application trois contacts de confiance.
Alors,
et si elles se retrouvent en situation de danger,
elles enclenchent une alerte. L'idée, c'est qu'elles téléchargent l'application, elles définissent trois personnes de confiance qui elles-mêmes téléchargent l'application. Quand elles sont en difficulté, elles peuvent enclencher une alerte.
Soit en débranchant les écouteurs, soit en appuyant sur le bouton marche arrêt.
C'est ça. Il y a différents modes de déclenchement et d'ailleurs le bracelet est un des modes de déclenchement de l'application. Ouais. Donc, on peut l'enclencher depuis un bracelet, depuis l'application, depuis son casque audio, depuis la touche on/off de son téléphone. Donc, l'idée, c'est de donner différents modes de déclenchement aussi. Et une fois que l'alerte est enclenchée, nos trois personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe et elles ont le suivi GPS en temps réel. Et
donc, elles savent où est la personne qui est en danger.
Elles entendent ce qui se passe. Ouais. Et leur rôle, ben, c'est de comprendre la situation et d'organiser les secours en soutien à la victime.
Incroyable.
Cette alerte est automatiquement enregistrée et donc la victime va pouvoir s'en servir comme preuve si elle souhaite aller déposer plainte ou tout simplement avoir un peu plus de courage pour dénoncer les violences parce que on sait très bien que le fait de ne pas être cru, ça empêche parfois de dire les choses.
Bien sûr.
Donc il y a cette fonctionnalité, donc on peut appeler les secours évidemment, mais et ensuite on est sur des fonctionnalités mais qui sont juste logiques et qui correspondent aux besoins des victimes. C'est qu'on a plein d'associations en France qui savent faire leur boulot et qui accompagnent parfaitement les victimes de violences, sauf que le public ne les connaît pas. Que ça soit les victimes elles-mêmes ou leurs proches, elles ne les connaissent pas. Donc on a fait un référencement des associations par territoire. Donc on peut les appeler, on peut se renseigner, on peut les trouver sur une cartographie, on peut accéder à la pré-plainte en ligne. En fait, tout ce qui peut être utile, on l'a centralisé pour faciliter les démarches des victimes.
Et c'est absolument génial. C'est encore plus fou si on songe que pour lancer l'application, vous y avez mis 15 000 euros de votre poche, que vous avez trouvé porte-close au départ partout et qu'aujourd'hui, l'application se décline dans une dizaine de pays, que vous avez reçu ce prix à Vegas, mais qu'il y a eu aussi un prix du fonds Facebook contre les discriminations et les violences, un prix de la fondation de François Hollande.
La France s'engage.
La France s'engage. Enfin voilà, ça décolle et ça décolle et ça décolle, sauf qu'évidemment, vous ne vous arrêtez pas là, parce que ce serait trop simple. Dernier petit bébé en date, une bande dessinée, l'histoire de Moa, harcelée par Marcel et Arsène à l'école. Ça commence par des moqueries, comme souvent, et puis ce sont des brimades, et puis des insultes, et des coups, et puis tout le monde s'y met. Et c'est vous qui le racontez, non, qui le slamez.
Ils sont devenus comme des monstres. Personne n'en avait rien à faire. Louise, Amine, Moussa, Clara, Théo, Ahmed et Ayla voyaient tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont préféré se taire. Je dirais même qu'ils ne m'aimaient plus. Pire, qu'ils m'avaient laissé tomber. Des fois, Louise et Amine aussi s'y mettaient. Parfois, Moussa et Clara se contentaient de rigoler. Certains jours, Théo et Ayla avaient pitié. C'était bizarre. On aurait dit qu'ils n'aimaient pas trop m'embêter, qu'ils faisaient comme les autres, qu'ils se forçaient. Quand ils étaient seuls avec moi, généralement, ils étaient sympas. Peut-être que devant Arsène et Marcel, ils faisaient exprès, qu'eux aussi avaient peur d'eux, qu'ils jouaient les méchants idiots pour ne pas passer pour des peureux. Je n'avais presque plus d'amis. Il ne me restait plus qu'Ayla. Mon cœur et mon corps étaient en émoi. Il y avait les autres et il y avait moi. Je ne comprenais toujours pas pourquoi.
Diariatan Diaye, ce que vous avez voulu mettre en évidence, en fait, c'est la mécanique du harcèlement. Là, on entend la maîtresse qui ne voit rien, les camarades qui se taisent, comment petit à petit, le piège se referme, encore une fois, sur cette idée de solitude de la victime, c'est ça ?
Ouais, je pense qu'effectivement, je me dis qu'on ne peut pas lutter contre un phénomène si les personnes ne savent pas de quoi on parle, déjà. Et non, mais ça paraît un peu basique comme réflexion, mais... Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas de quoi on parle quand on parle de harcèlement, de façon générale, et même quand on parle de harcèlement scolaire. Et donc l'idée, c'est d'expliquer, d'une, aussi bien aux enfants qu'on sont victimes, qu'aux harceleurs, qu'aux témoins, aux profs, aux parents.
Et parce qu'il y a l'histoire de moi, et puis il y a aussi un guide pratique.
Ben, c'est ça, c'est que vraiment, je pense qu'il y a de la méconnaissance sur le sujet, et donc d'utiliser l'art... Donc de passer par un bouquin, par un texte slamé, des illustrations magnifiques d'Amma, qui oui. sont vraiment géniales, et aussi passer par l'audio, c'est donner la possibilité d'aller sur un sujet qui est un peu désagréable quand même, mais qu'on doit affronter.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller sur ce terrain-là ?
Bah, la question du harcèlement scolaire, elle concerne déjà tous les jeunes avec lesquels on échange, qu'on rencontre dans le cadre de Résonante.
C'est un enfant sur 10, donc ça nous fait entre 800 et 1 million d'enfants en France, énorme. Ce qui est énorme.
C'est énorme, et puis surtout, nous ce qu'on voit avec Résonante, on travaille plutôt avec les collégiens et les lycéens. Sauf que dans leurs témoignages, quand ils racontent qu'ils ont été victimes de harcèlement, généralement ils l'ont été déjà quand ils étaient en primaire, et puis j'ai des enfants. J'ai trois enfants qui ont 7, 8 et 11 ans. Donc, ils sont potentiellement concernés. Et quand je dis potentiellement concernés, c'est aussi bien en tant que victime, ou peut-être en tant que harceleur, et aussi en tant que témoin qui ne sait pas trop comment réagir, quoi. Et je pense que c'est aussi en pensant à mes enfants que j'ai écrit ce bouquin, quoi.
Et une fois de plus, l'idée, c'est de briser le silence. Parce que pour le coup, c'est aussi du silence dont vous avez été victime, vous, finalement, dans votre histoire. C'est parce qu'on ne parlait pas des choses.
Alors, c'est ça. C'est même pas le... Alors, effectivement, c'est le silence. Mais avant toute chose, je crois que moi, ce qui m'a le plus marqué dans mon histoire, et ce que j'ai vraiment trouvé difficile, c'est la solitude, quoi. Mais cette solitude, mais vraiment, c'est horrible. Et c'est le point commun avec toutes les victimes, et peu importe les violences que tu subis.
C'est leur enfermement et leur isolement, oui.
Cette solitude, quoi. C'est que t'as vraiment cette impression.
Ils ont la fausse idée, parce que justement, comme on ne parle pas de ces sujets-là, on ne connaît pas les chiffres, donc on ne sait pas à quel point.
Mais en fait, c'est ça.
Les victimes sont nombreuses.
C'est que t'as vraiment l'impression que t'es seule à vivre ce que tu vis, que t'es seule à devoir t'en débrouiller, que personne va te comprendre, que personne va te croire, que personne, enfin. Tu vois, et cette solitude-là, elle est horrible. Je pense que c'est celle qui rend fou, quoi. L'idée, c'est aussi de dire que t'inquiète, tu n'es pas seule.
Ça ne surprendra pas celles et ceux qui nous écoutent, du coup, si on se dit que l'objet qui a fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est... Tadam, tadam, quel est l'objet que vous avez déposé dans notre labo du genre ?
L'objet, c'est un stylo que je
vous
ai mis.
Vous l'avez là ou pas ?
Alors, il faut nous
le montrer.
Ouais, il faut que je vous le montre.
Il faut le sortir du sac à dos.
Ah là 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 là.
Passer sur la chaise à côté de vous, qui fait que vous détournez légèrement du micro, donc on vous entend un petit peu plus loin. Mais je rassure tout le monde, vous êtes toujours là.
Je suis là, je cherche. Donc, c'est un stylo, quoi, basique, classique. Mais il est noir. C'est un stylo noir. J'écris pas en bleu, par exemple. Ça me rappelle trop l'école. À l'école, on était obligé d'écrire en bleu. Et donc, j'écris toujours en noir. Et vraiment, ce stylo, pour moi, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Ça devrait être obligatoire, l'écriture. T'es pas obligé de partager ce que tu écris, mais on devrait toutes et tous avoir un cahier et un stylo, parce que c'est accessible. Écrire ce qu'on pense, écrire ce qu'on ressent, écrire nos rêves, écrire nos angoisses, écrire... tout le temps, et je pense vraiment que ça devrait être obligatoire.
Et avec tous ces stylos que nous apportent nos invités, quelques jours, un jour, je me dis que si je me reconvertis, j'ouvrirai une papeterie.
C'est vrai. Regarde,
mais évidemment.
C'est incroyable.
Mais c'est fou. Blague à part, ce que ça dit, c'est que l'émancipation, elle passe quand même par les mots, que devenir soi, c'est s'autoriser à se raconter, à dessiner ses propres contours, celui du monde autour. Et c'est ce qu'on fait ici, tous les vendredis. Merci infiniment, Diariatan Diaye, d'avoir ajouté ce soir votre nuance à notre palette d'humanité. Unique en son genre, c'est terminé pour ce soir, vous l'aurez compris. Arsène et Marcel me harcèlent, c'est chez Grune Jeunesse. On donne quelques numéros utiles, le 30-18 pour toute situation de cyberharcèlement à destination des jeunes, mais pas que. Le 30-20 pour toute situation de harcèlement scolaire, du lundi au samedi de 9h à 20h. Le 119, c'est l'enfance en danger, qu'on soit témoin ou victime. Hein,
c'est ça, tout à fait.
Ouais. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.